Le silence et l'esprit. Le silence est essentiel pour l'esprit. Sans silence, l'esprit s'extasiera dans des turbulences de désirs, pensées et sentiments contradictoires. L'éducation traditionnelle occidentale n'a rien compris à cela. Les enfants sont à force tenus silencieux pour éclater en des expressions de stupidité extrême et de comportements excessivement banals une fois libérés de la tutelle disciplinaire. Dans les vieilles cultures asiatiques, on avait mieux compris le fonctionnement de l'esprit et la nécessité d'aider l'enfant de trouver sa propre attitude mentale face aux besoins de méditation et de silence. Mais ce savoir millénaire s'est pour la plupart perdu dans la plupart des pays asiatiques, comme je l'ai vu avec mes propres yeux et à ma grande désolation. L'approche éducative de Krishnamurti est une grande exception à cet égard, admirablement courageuse, sinon révolutionnaire. Mais les hommes ont la tendance de mettre de l'eau dans le vin. La pratique de l'éducation dans les écoles Krishnamurti diffère de son enseignement à maints égards. Le silence est un besoin impératif pour l'esprit et cela, la plupart des Occidentaux l'ignorent. Nombre de maladies psychiques prennent leur début par des turbulences mentales résultant du chaos, de bruit et d'influences multiples auxquelles les enfants sont exposés. Bien entendu, je ne suis pas un apôtre de la protection de l'enfant dans la manière des bourgeois du XIXe siècle ou de sa version nouvelle de provenance nord-américaine. Il n'est pas question d'isoler les enfants des mouvements parfois contradictoires et certes variés de la vie, au contraire. La méditation, évidemment nécessaire pour mettre le cerveau en harmonie, permet de synchroniser les deux côtés du cerveau, la pensée intellectuelle et logique d'une part, et la pensée intuitive et créatrice de l'autre. Il est important de savoir que le silence de l'esprit ne peut être imposé. Aucune approche éducative saurait l'enseigner. Seuls les éducateurs qui savent ce que c'est que le silence mental seront capables de donner une idée aux enfants de ce que c'est en réalité. Mais même eux auront de la peine à transmettre ce savoir. C'est en fait un savoir qui n'est pas transmissible. Krishnamurti l'a bien dit de différentes façons pour nous sensibiliser à ce problème inconnu à la plupart des gens au temps actuel. Les anciens le savaient bien. Le silence d'esprit ne peut être cherché. Si l'on le cherche, il s'échappe. C'est un peu comme disent les bouddhistes, si l'on cherche le Bouddha, il s'échappe. Il n'est pas important comment on trouve la paix intérieure. Seul le résultat compte. La seule chose que l'on peut faire en tant qu'éducateur, c'est de sensibiliser l'enfant au bruit qui l'entoure, de le rendre conscient aux influences multiples et à la manipulation subtile que nous impose une société manipulatrice, et puis de le laisser aller, car la contrainte ne peut aider au niveau spirituel. Elle n'aura que des effets négatifs. Le silence ne peut s'imposer que par le silence. Dans le Tao Te Ching, on trouve la phrase « Si tu veux qu'une chose s'élargit beaucoup, tu dois d'abord la comprimer beaucoup. » On peut observer que les élèves, dans des écoles traditionnelles où l'on met l'accent sur la discipline et la politesse superficielle, sont hyper bruyants. Une fois libérés de la contrainte imposée, ils se livrent au pire des batailles, se frappent dessus comme des aliénés et crient comme une horde de gorilles. Si l'on abandonne la contrainte, on met fin au dualisme contrainte-liberté qui est une sorte de cage de loup sans sortie et ouvre la voie au principe d'autorégulation. L'enfant libre ne tombe pas dans de tels extrêmes et se comporte intelligemment et avec une politesse naturelle. On peut d'ailleurs s'en convaincre facilement quand on fait des vacances dans des pays où les enfants vivent encore en harmonie avec la nature et sans la plupart des contraintes que la civilisation nous impose. À ces endroits bénis du monde, les enfants paraissent plus mûrs, plus hospitaliers, plus aimables, plus intelligents et surtout plus naturels que de chez nous. En Occident, on a jadis enveloppé les nouveau-nés dans des linges pour les attacher au mur quand on sortait de la maison. Dans certains pays, on le fait encore. Pas beaucoup d'imagination est nécessaire pour se rendre compte des angoisses et des crispations d'un bébé ainsi transformé en morceaux de bois. Et on pensait sérieusement que le corps du petit bébé n'était pas soutenu par les os et devait être incarcéré dans une prison artificielle pour pouvoir grandir. Quelle aliénation de la nature qui inspirait tant de gens à des pensées aussi absurdes, perverses et cruelles vis-à-vis des enfants. L'enfant a de temps à autre besoin de faire du bruit. Il peut se plaire dans une suite de mouvements rapides pour ensuite s'asseoir tranquillement et observer son environnement. Mais chez l'enfant sain, ce ne sont que des moments et l'enfant se repose ensuite ou cherche la tendresse calme avec un adulte qu'il aime. On peut dire en général que l'enfant sain s'exprime d'une façon variée et n'est rarement enfermé dans un même comportement. C'est peut-être cela qui fait que l'équilibre psychique est si fantastiquement stable chez les petits-enfants, cette faculté de changer très vite et d'adopter une suite d'actions différentes. On parle alors de faiblesse de concentration, ce qui en soi est le comble de la stupidité professionnelle, car la concentration est une faculté dont l'enfant n'a point besoin. Elle appartient à la pensée adulte, qui est beaucoup plus focalisée que la pensée des enfants. La pensée contemplative et fraîche des enfants est différente de la concentration et à comparer uniquement avec celle des sages. Krishnamurti l'a bien dit à plusieurs reprises au sujet de la méditation et de l'état de non-pensée. La concentration, disait-il, empêche la méditation parce que l'esprit ouvert et méditatif n'est justement pas dirigé vers un but précis, mais laisse simplement passer les choses, les événements, les sentiments, les pensées. Et puis, il y a l'observateur qui contemple ce processus. L'observateur semble être à l'extérieur, mais c'est une illusion. L'observateur n'est pas différent de l'observation. Il est l'observation. La concentration appartient donc au processus de la pensée, tandis que la méditation est du côté de l'état de l'absence de pensée, l'état d'observation pure, pour ainsi dire, que j'ai appelé en anglais direct perception. L'enfant se trouve souvent dans cet état béni d'observation pure. Tous les enfants méditent naturellement. Ce qu'ils doivent apprendre, c'est plutôt de penser, de raisonner, de construire ses pensées d'une façon logique et dès lors de se concentrer. Mais alors le petit enfant ne peut avoir de faiblesse de concentration s'il s'agit d'une faculté dont il n'a pas encore besoin.